Imen, tu as décidé de soutenir la campagne d'Amnesty International.
Absolument. Ça fait des années que je soutiens les campagnes d'Amnesty International, étant moi-même une survivante grâce à Amnesty International, si on peut dire. Donc, par rapport à la campagne cette année, qui est la campagne contre la torture, c'est la quatrième campagne que Amnesty International mène dans le monde contre la torture. J'ai eu la chance de participer à celle qui était faite l'année 2000. J'étais en Europe, c'est après quelques mois de ma sortie de la prison. Donc, j'ai eu la chance de participer à cette campagne l'année 2000. Et je suis contente encore que cette année, j'y participe.
Donc en 2000, c'était pas longtemps après que tu sois sorti de prison.
Non, l'année 2000, ben, la campagne a commencé le mois de septembre 2000 et moi, j'ai quitté la prison, c'était le mois d'août 99. Donc, ça faisait un an que j'ai quitté la prison.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus pourquoi c'était important pour toi de rejoindre cette campagne en 2000 et puis aujourd'hui en 2014?
Au fait, à cause, j'ai rejoint la campagne d'Amnesty parce que moi-même, j'étais une détenue d'opinion dont Amnesty a défendu et grâce à Amnesty, j'ai pu sortir de la prison. Donc, j'étais témoin dans la campagne d'Amnesty de l'efficacité du travail d'Amnesty pour libérer des gens. Par rapport à mon histoire, j'étais à l'année 98 une syndicaliste étudiante. On avait un syndicat d'étudiants et comme partout dans le monde. C'était un syndicat d'étudiants qui était là pour revendiquer des droits étudiantins. C'était un syndicat légal. Mais légal sur le papier, si vous voulez, parce que moi, je viens de la Tunisie. À la Tunisie, à l'époque, pourquoi je dis à l'époque? Parce qu'on a fait l'année 2011 notre révolution, la révolution tunisienne et ce que vous appelez la révolution, le printemps arabe. C'est nous qui avons eu le courage de commencer ce printemps. Donc, à l'époque, c'était encore le dictateur Ben Ali qui était là. Comme vous savez, une dictature, c'est une dictature. Donc, on n'avait aucun droit, ni d'expression, ni de manifestation, ni rien du tout. Les personnes qui osent vouloir revendiquer leurs droits, même le plus minime, comme le droit, nous, comme étudiants, de manifester, d'exprimer nos opinions dans un cadre légal, qui est un syndicat, on est sujet après à se faire arrêter, torturer et emprisonner. Donc à l'époque, donc 1998, précisément le 20 février 1998, on a décidé de faire une grève parce qu'à l'époque, on revendiquait justement la gratuité des frais d'inscription, on revendiquait quelque chose que vous n'avez pas ici, mais nous qui existait à l'époque, c'est un corps de police qui s'appelle la police universitaire, qui était présent dans le campus universitaire. Donc, nous, comme étudiants à l'époque, pour entrer à l'université, il fallait montrer nos cartes d'étudiants aux policiers que lui décide de nous laisser rentrer dans notre université. C'est scandaleux. Donc, parmi nos revendications, c'était que la police universitaire quitte l'université. Donc, la grève était d'abord légale parce que on a demandé une autorisation et ça a été légal. Deux, elle était une grève extrêmement pacifique. Donc, il n'y a pas eu de grabuge, il n'y a pas eu besoin d'intervention de la police anti-émeute. Et à la fin de la manifestation, un autre corps de police qui était là, qui s'appelle la police politique, c'est des gens en civil avec des voitures banalisées qu'on connaît très bien parce que du moment en Tunisie, tu t'engages dans un syndicat où tu commences à t'opposer au régime, t'as un policier civil qui fait partie de la police politique, qui te suit du matin au soir. Tu es sous surveillance permanente. Donc, la police politique était là pour nous. Ils étaient là, comme d'habitude, pour surveiller nos activités. Mais malheureusement, toute une vague d'arrestations a commencé.
Tu avais conscience de ce qui t'attendait, de ce que tu risquais si tu étais arrêtée. Tu savais exactement ce qui t'attendait?
J'étais pas la seule à le savoir. Le peuple tunisien au complet, c'est que le danger de s'engager syndicalement ou politiquement en Tunisie, c'est un, on signe un danger en faisant ça, parce que tout le peuple sait que il faut pas. À la naissance, quasiment, nos parents nous apprennent, fais attention, les murs ont des oreilles, et c'est grave, tu sais, il faut qu'on applique l'autocensure à nous-mêmes. C'était un régime paranoïa. Et oui, je savais ce que je risquais, mais tout le monde sait ce que tu risques. On sait très bien qu'il y a un bâtiment de torture et que si t'oses confronter le régime, ben, tu vas avoir le risque d'être arrêté et torturé. Et de plus, la torture, c'est ça qui est grave, c'est ce qui existe dans plusieurs pays du monde aujourd'hui, c'est que c'est pas l'abus du policier là, qui poivre du poivre là, sur un étudiant ou un opposant. Non, non, nous, c'est un outil de gouvernement, la torture. C'est grave parce que c'est comme une institution qui existe dans la société. Donc, il y a un bâtiment où on applique la torture, il y a des tortionnaires formés pour bien torturer. Et ces tortionnaires, j'aime juste signaler quelque chose, c'est des policiers qui sont formés pour bien torturer. Et il y a même des écoles de torture. Il y a même une école qui n'est pas loin de chez vous. Il y a une école de torture aux États-Unis où on forme malheureusement des policiers leur apprendre comment torturer. Donc oui, je savais le danger qui m'attendait. Mais vous savez, lorsqu'on est jeune, on est révolté, hein? Et on veut changer le monde. Et on veut voir la vie en couleur. Et c'est un droit noble, ça, de vouloir changer le monde, de faire la paix, de s'exprimer, juste s'exprimer. Et à un certain moment dans la vie, en Tunisie, à l'époque, il y avait deux choix. Il y avait soit le choix de suivre le troupeau, guidé par le président, et baisser la tête et accepter tout ce qu'on voit, soit choisir la liberté et dire « Oui, je risque le danger de se faire arrêter, mais je veux vivre aujourd'hui libre. Donc, je vais dire ce que je pense, je vais apprécier les couleurs de la vie, je veux écouter la musique que je veux, parler, s'exprimer comme je veux, et le risque, écoute, on verra rendu là. Mais au moins, je vais profiter de vivre au lieu de mourir mentalement en s'auto-censurant soi-même et éviter le danger de se faire arrêter. Donc moi, oui, j'ai choisi ça en sachant que c'est sûr, je vais un jour être arrêtée et torturée, mais mon amour vers la liberté était plus fort.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu as été arrêtée?
C'est une vague d'arrestations. On était 17 à être arrêtés, comme ils disent, les perturbateurs, si vous voulez, les chefs syndicaux. On était 17, 3 filles et 14 garçons. Bah, tous on a passé par le même sort, c'était la torture. Donc, c'était des... comme je vous ai dit, c'était bien orchestré, hein, la torture. C'est un outil de gouvernement. C'est des gens qui ne font pas juste frapper, c'est des gens qui font souffrir. Et avec des techniques assez barbares et sauvages, mais qu'ils font avec une méthodologie quasiment. Parce que même juste le bâtiment de torture, l'architecture à l'intérieur est conçue pour chaque technique de torture. Les techniques de torture, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais il suffit de cliquer sur ce qui se passe aujourd'hui à Abu Ghraib, en Irak, ce qui s'est passé, ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe à Guantanamo, ce qui se passe dans plusieurs pays du monde. C'est les mêmes techniques, ils apprennent la même chose à faire. L'idée, c'est torturer. Et torturer sans laisser de traces, ça, c'est parmi leurs mots d'ordre. Pourquoi sans laisser de traces? Parce que les traces, ça justifie parce qu'ils nous disent qu'on est des menteurs, hein, qu'il n'y a pas de torture, surtout la Tunisie à l'époque, ils ont ratifié la convention contre la torture. Et la torture existe pareil. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un médecin qui est là et qui guide la torture, qui dit pour telle personne, arrêtez telle technique, faites telle technique. Ils nous mettent beaucoup de pommades, essayez de laisser le moins de traces possible. Donc, sans parler de la torture psychologique, elle, c'est grave parce que c'est les séquelles de cette torture partiront jamais, jamais, jamais. Parce que les séquelles physiques, oui, ça part à un certain moment, mais les séquelles psychologiques et aux autres, ils jouent beaucoup sur ça. Donc oui, la privation de sommeil, juste entendre le son, ils font exprès, ils mettent des enregistrements du son de nos amis qui se font torturer, tant chum qui hurle de souffrance, juste ça, ça part jamais. Donc, c'est ça qu'ils nous ont fait, c'est ça qu'ils ont fait à ceux avant nous, ils ont pratiqué la torture à ceux après nous. Il y a des gens qui sont morts sous la torture en Tunisie, il y a eu des morts sous la torture. Et ce qui est malheureux, c'est que ça existe encore aujourd'hui. On est en 2014 et il y a encore des États qui torturent les gens. Et on va me poser la question, mais pourquoi? Mais est-ce qu'ils voulaient que j'avoue quelque chose? J'aimerais ça que le monde comprenne que la torture est là pas pour faire parler. La torture est appliquée pour nous faire taire. On ne parle pas sous la torture. La torture est un moyen de punition. Moi, les policiers, les tortionnaires pendant la torture, ils ne me posent pas des questions pour avouer quelque chose. Non, non. Ils me montrent comment je dois apprendre la leçon de ne plus m'opposer, de ne plus faire la politique. Ils disent, as-tu compris qu'on ne peut pas s'opposer au président? T'as-tu compris que c'est mieux de rester sage? Donc ça, j'aimerais ça juste dire que, et c'est le but de la campagne d'Amnesty, entre autres, c'est changer des mentalités, surtout avec cette soi-disant guerre contre le terrorisme. On entend souvent, et c'est malheureux parce qu'il y a même des jeunes que j'ai entendus qui me parlent, qui me disent, tu sais, c'est grave, hein, un terroriste, là, pour qui il parle et il avoue, elle est où la bombe pour sauver des vies? Eh bien, il faut le torturer un peu pour qu'il parle. Ben, la torture ne sauve pas des vies, la torture tue la vie. Parce que tu ne parles pas sous la torture, tu dis ce que le tortionnaire veut que tu dis. Tu peux dire que ton père est terroriste et que ta mère est terroriste et toute ta famille est terroriste parce que la torture, ça fait trop mal. Donc ça, l'idée de dire pour sauver des vies, ben, le soi-disant terroriste, il va avouer, c'est pas vrai, il va dire ce que les tortionnaires veulent qu'il dise. D'ailleurs, on a vu dans la conférence de presse d'Amnesty International comment un extorsionnaire, il a même dit, c'était inefficace parce que on n'a pu rien trouver avec la torture. Donc oui, la torture, ça emmène à rien. La guerre contre le terrorisme le terrorisme est alimenté par la torture parce que justement, il l'a dit même l'extorsionnaire et l'Amnesty le dit et les psychologues le disent et tous les sociologues le disent, c'est que quelqu'un qui est innocent, qui se fait torturer, il a tellement de haine là qui s'accumule, ben il devient une proie très facile aux terroristes après. Il se fait facilement recruter par des terroristes après. Oui, il peut devenir un terroriste parce que il a subi tellement d'injustices, la torture, ça fait mal, c'est barbare, c'est inhumain, qu'il se remplit tellement de haine qu'après, il veut se venger, justement. Donc ça, j'aimerais ça que c'est ce qu'on vise avec la campagne d'Amnesty, c'est changer des mentalités. La torture, c'est grave, la torture. On ne peut pas accepter la torture. La torture, c'est barbare, c'est inhumain. Il ne faut plus qu'elle existe. Et pour trouver des terroristes, ben, y a d'autres moyens d'interrogation. Ce n'est pas le moyen efficace. Il y a des moyens d'enquêter pour savoir qui est innocent et qui ne l'est pas. C'est pas via la torture, ça donne rien la torture, ça tue l'humain. Et nous, Amnesty, on veut sauver des vies et on va sauver des vies lorsque on dénonce la torture et on arrête la torture.
Comment est-ce qu'on peut arrêter la torture au-delà de sensibiliser l'opinion publique comme vous êtes en train de le faire?
D'abord, sensibiliser l'opinion publique, c'est important. Parce que dans les régimes dictatoriaux, de toute façon, lorsqu'on dénonce la torture et on dénonce l'injustice et on dénonce la répression, y a une pression qui se forme. Il y a internationale, il y a une solidarité. Et c'est avec cette solidarité contre cette dictature, le fait de soutenir la société civile qui veut la démocratie, ça aide, ça d'une. Deux, parlons un peu, vu qu'on est dans un état démocratique. Parlons un peu des États démocratiques où on n'applique pas la torture. Ben, excusez-moi, ils sont autant complices dans ce qui se passe. Parce qu'est-ce qui se passe ici? C'est que, OK, on ne torture pas, exemple, au Canada, mais le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie, soi-disant, le présumé terroriste, il l'envoie dans son pays où on applique la torture et on accepte les aveux qu'il fait sous la torture comme preuve dans sa condamnation. C'est scandaleux, ça s'appelle la sous-traitance de la torture, ça. C'est incroyable comment ils sont complices, ces régimes démocratiques, soi-disant, parce que t'es autant sauvage à envoyer quelqu'un se faire torturer et là, en plus, prendre les aveux et les prendre comme preuve contre cette personne. Ben, c'est aussi, vous êtes aussi complices, les régimes sont autant complices dans cet acte criminel. Donc, la pression, le fait qu'il y a une démocratie pour le moment au Canada, mais le fait parce que vous êtes les électeurs des gouvernements, et pour le moment, ça marche, des pressions qui viennent du peuple sur le gouvernement pour changer des choses. Ben, le fait de dénoncer, de s'opposer, de dire « nous, on n'accepte pas ça, la sous-traitance de la torture, et on n'accepte pas ben, », oui, ça marche, parce qu'ils finissent par réagir vu qu'il y a un système démocratique un peu. Donc oui, la pression, la solidarité internationale. Moi, je trouve que les États sont très solidaires ensemble. Hein. On voit bien là, ils se défendent, hein, qui protègent l'autre. Tu sais, il y a eu des cas de citoyens canadiens envoyés à l'époque en Tunisie se faire torturer et le gouvernement protégeait ça. Il prenait ses preuves comme moyen pour condamner la personne. Il y a du Guantanamo du Nord au Canada. Et ça, c'est grave. C'est des gens qui sont mis en prison sans procès, sous des certificats de sécurité. C'est des sortes de dictatures, ça. C'est grave. Donc, moi, c'est ça que je dis. Je dis que la solidarité internationale, le fait de dénoncer, le fait d'utiliser des moyens que la démocratie offre encore pour dénoncer ce qui se passe, ben, d'abord, ça protège la démocratie existante et ça fait qu'on se crée entre nous les sociétés civiles, les gens qui croient à ces valeurs universelles des droits de l'homme, on crée nous autres aussi notre solidarité. Eux autres, ils sont solidaires pour gouverner et nous, on veut gouverner avec des belles valeurs, et c'est le but de la campagne d'Amnesty. Donc, c'est d'échanger, comme ils disent, des mentalités et arrêtons de dire que un peu de torture, ça peut sauver des vies. C'est pas vrai, ça tue des vies. Deux, essayer de changer les lois. Essayer de sauver des vies pour de vrai avec cette campagne, parce qu'il y a des gens qui sont sous la torture au moment où je parle, moi et toi. Ben, avec la campagne d'Amnesty, moi, la campagne d'Amnesty pour me libérer a marché. J'allais être condamnée avec mes camarades de 35 ans et plus de prison. Ben, j'ai passé un an et demi de prison à la place de 35 ans et c'est grâce à des campagnes et une solidarité, grâce à des gens qui ont dit ben, « Ok, je vais continuer à vivre ma vie, mais je ne regarde pas juste mon nombril, je vais donner un peu de temps à d'autres humains pour les sauver et ça marche. »
Ça a été quoi la démarche d'Amnesty International pour te libérer? Est-ce qu'ils ont simplement pointé du doigt?
La campagne d'Amnesty se présente d'abord, il y a des pétitions que des gens de partout signent. Il y a des lettres envoyées au gouvernement. Et vous savez, des dictateurs, c'est des gens qui essayent de préserver une façade. Hein. Ils essayent de monter comme un décor démocratique. En Tunisie, à l'époque, même Pauline Marois, lorsqu'elle a visité la Tunisie, elle dit « Mon Dieu, c'est un pays assez démocratique ». Donc, la façade, il y avait tout qui donne l'air que c'est une démocratie. Hein. Donc là, un dictateur, lorsqu'il voit que les cas d'abus qu'il fait, les cas d'injustice qu'il fait, ils sont médiatisés à l'extérieur, tout le monde lui envoie des lettres, parce qu'il y a eu des lettres envoyées d'Amnesty International de partout dans le monde. Hein. Donc là, les dictateurs, ils ont peur à ce moment-là, et c'est là qu'ils décident de libérer. Et même moi, qu'est-ce que ça fait les campagnes d'Amnesty? Parce qu'Amnesty, bon, il y a le côté d'essayer de faire pression sur les gouvernements, mais il y a aussi des lettres envoyées au prisonnier lui-même. Et ça fait toute une différence dans une vie, parce qu'en prison, on est isolé, hein, les détenus d'opinion, on est isolés et on est maltraités beaucoup en prison. Et à un certain moment, tu commences à voir noir un peu en prison. Tu dis, mon Dieu, je suis seule, commence à pas bien se sentir. Et là, d'un coup, tu commences à recevoir des lettres, des gens qui disent, on est là pour te libérer, tiens bon, on va te libérer. Là, tu sens l'énergie, de la solidarité de partout. Et c'est là que tu décides de rester fort et de sentir que tu es soutenu. Et ça finit par libérer le prisonnier, parce que là, tu penses juste à ta libération, à tout le soutien que des militants te donnent de partout. Donc là, tu restes fort, tu t'essayes de rester vivant pour sortir, dire merci à ces gens-là. Et deux, surtout, ça fait beaucoup de pression sur les gouvernements pour libérer, et s'ils ne libèrent pas, mais au moins, ils améliorent tes conditions à l'intérieur.
S'ils veulent rendre vos conditions de vie si difficiles, pourquoi est-ce qu'ils vous autorisent à recevoir ces lettres en prison ?
Pour recevoir les lettres, ça a pris de la pression aussi pour les recevoir, parce que c'est sûr, je n'ai pas toutes reçues non plus les lettres. Mais n'oublions pas, comme dans notre procès, il s'appelait à l'époque le procès du siècle, on a eu une solidarité incroyable de partout dans le monde. J'ai eu même des avocats québécois qui sont venus me défendre en Tunisie. On a eu des centaines d'avocats, des volontaires qui sont descendus pour nous défendre, parce que c'était un procès très flagrant d'injustice. Des étudiants qui ont manifesté, ils finissent par se faire torturer et emprisonner. C'était comme « wow, trop ». Et grâce à... Parce que nous, les gens d'Amnesty, ils contactent les avocats. Ils contactent les sociétés civiles. Donc, mes avocats, lorsqu'ils me visitent, ils savent très bien, j'ai jamais reçu de lettres. Mais ils savent, ces avocats, que Amnesty, les membres d'Amnesty ont envoyé des lettres. Donc là, les avocats font une pression. Comment ça? Elle ne reçoit pas son courrier. Là, ça fait des scandales. Et le gouvernement, ils ne veulent pas de scandale. Donc là, ils finissent par me laisser des lettres qui rentrent. Mais en même temps, c'est sûr, eux autres, ils reçoivent des lettres. Parce que c'est ça, la force d'Amnesty. Hein? C'est la force du stylo. Ils lâchent jamais, ils écrivent des pétitions, des lettres. Et le gouvernement, il finit par céder. Ils sont plus capables, que le cas est devenu très flagrant. Et partout dans le monde, ils voient nos photos et regardez ce qui se passe en Tunisie. Et ça, ils ne veulent pas ça. Donc, ils ont fini par nous libérer à la place de nous retenir.
Est-ce que tu penses, dans l'actuel des choses, que c'est... J'imagine que ça va être très difficile, mais est-ce que c'est possible de changer les mentalités au point d'abolir totalement la torture?
Moi, si je ne crois pas qu'on va réussir et qu'un jour Amnesty International n'existe plus dans le monde, c'est ça mon but, qu'un jour on n'aura plus besoin d'Amnesty International. Moi, je suis sûre que ça va arriver. Comme lorsque je parlais de la révolution tunisienne, lorsque j'étais jeune, le monde, beaucoup de monde en rit sur moi. En Tunisie, il y aura une révolution. Va! Je dis, c'est le rêve de ma vie et je sais qu'il va se réaliser. Et il s'est réalisé en 2011. Pour moi, parce que je crois à la masse, je crois à la solidarité. Moi, je suis quelqu'un dont le plus mince de mes veines croit à cette solidarité. Ça marchait dans toute ma vie, ça change des choses. Donc oui, je suis sûre, lorsque les jeunes, surtout vous, les futurs décideurs de ce monde, si toutes ces jeunes sont convaincus, ils sont habitués à dire non à la peine de mort, non à la torture, on n'accepte pas ça, on est convaincus que ça ne sert à rien, le jour où vous allez avoir le pouvoir, vous n'allez pas le faire. Vous allez, parce que vous êtes habitués à ne pas accepter ça. Moi, j'ai aucun espoir que Bush va changer de mentalité, mais... Je crois que toi, tu vas pas accepter ça. Et que les jeunes comme toi, qui s'intéressent déjà aux droits humains, qui se posent des questions, il faut se poser des questions. J'aime ça, les jeunes qui me disent, dans un cas tel, oui, posez-vous des questions, mais il faut qu'on finisse par être d'accord qu'on ne peut pas accepter ça. C'est barbare, c'est inhumain, ça date de l'âge de pierre et c'est inefficace en plus. Donc pourquoi le faire?